Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, le 30 avril, c'est une journée dédiée à rendre hommage aux professionnels de la craie. Mais cette journée est souvent marquée par des revendications syndicales liées aux conditions de travail et aux infrastructures scolaires. Nous allons suivre tour à tour ce qui se passe dans certaines provinces du pays. La crise alimentaire reste préoccupante en RDC. Plus de 3/4 des ménages en RDC vivent aujourd'hui en insécurité alimentaire. C'est ce que révèle l'évaluation conjointe de la sécurité alimentaire et de la malnutrition en situation d'urgence pour l'année 2025. La journée nationale de l'enseignement en RDC est célébrée chaque année le 30 avril. Une journée qui rend hommage au personnel éducatif, scientifique et met en avant le rôle crucial de l'éducation dans le développement de la nation. À cette occasion, les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi ont évalué les secteurs de l'enseignement en RDC. D'abord, cette information. La motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemin Chabani-Louko, a été rejetée ce mercredi à l'Assemblée nationale. En cause, l'adoption d'une motion incidente soulevant des irrégularités dans la procédure, notamment la présence des signatures jugées non conformes. Les initiateurs reprochés au ministre son inefficacité face à la dégradation de la situation sécuritaire ainsi que des interférences dans le fonctionnement des institutions provinciales et locales. Retour sur les déroulements de cette plénière avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
Qui sont contre ?
C'est dans une atmosphère particulièrement tendue que les députés ont examiné cette motion de défiance. 490 élus ont pris part à la séance, une mobilisation inhabituelle. À l'origine de la démarche, les députés Ladi Yangotikala, élu de Kisangani, a longuement exposé les griefs contre le vice-premier ministre. Il évoque notamment des cas d'ingérence et d'abus de pouvoir dans plusieurs provinces, dont Kinshasa, le Haut-Katanga, le Kasaï central et la Tchopo. Il dénonce également la montée de l'insécurité marquée par des braquages et des vols à main armée à Kinshasa et dans plusieurs villes. Mais en pleine plénière, le député Gary Sakata introduit une motion incidente. Il met en cause la régularité de la démarche, évoquant notamment la présence des signatures des non-députés ainsi que des irrégularités dans les identités des signataires. Soumise au vote, cette motion incidente est adoptée à la majorité. Conséquence, la motion de défiance est déclarée irrécevable et son examen interrompu. Le président de l'Assemblée nationale met alors fin à la procédure.
L'approbation de cette motion incidente met ainsi fin à l'examen de la motion de défiance. Il n'y a donc pas lieu d'engager ni débat ni vote de celle-ci.
Une fin de séance dans un climat mêlé d'amertume et de satisfaction.
Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal du matin sur la radio de la pays. Ce 30 avril, la RDC célèbre la journée nationale de l'enseignement. Une journée dédiée à rendre hommage aux enseignants et à réfléchir sur les systèmes éducatifs, souvent marqués par des revendications syndicales liées aux conditions de travail et aux infrastructures scolaires. Mais à Beni, Butembo et Lubero Nord Kivu, apprendre et enseigner relève parfois du défi. Entre attaques armées, déplacement des populations et écoles incendiées, le système éducatif est durement affecté dans ces zones en insécurité. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Des enseignants tués, des écoles incendiées et un nombre incalculable d'élèves contraints de fuir après les attaques répétées des groupes armés, notamment les ADF. C'est la réalité que vivent depuis plus d'une décennie plusieurs localités des territoires de Beni et Lubero. Une situation qui affecte sérieusement les niveaux de l'enseignement dans la région, alerte Jérémy Kasereka-Kinyangwa, responsable de l'Union nationale des enseignants du Congo, INECO, dans la zone.
Jusqu'à aujourd'hui, 60 écoles ont été brûlés par les IDF, 38 enseignants fauchés. Nous sommes en train de voir que la qualité de l'enseignement est en train de connaître une rude épreuve. Nous avons 222 jours au secondaire comme au primaire. Quand il y a incursion dans une zone, toute la population doit prendre fuite. Pour que la situation se normalise, souvent ça prend des semaines pendant lesquelles les enseignements sont suspendus. Il arrive des fois où il est question seulement de sauver l'année, pas de sauver l'éducation. C'est vraiment une terrible descente aux enfers du système éducatif. Nous ne savons pas par quel sens se vouer.
Dans ces conditions, enseigner devient un défi quotidien et apprendre un véritable parcours d'obstacles. Béni Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Entre résilience et survie quotidienne, les enseignants du sud de la province du Nord Kivu vivent une journée de l'enseignement sous fond de précarité. Ce 30 avril 2026, loin des célébrations, ils ont choisi la méditation et la réflexion face aux difficultés économiques et sécuritaires qui affectent leur secteur, en particulier dans cette zone affectée par les conflits armés. C'est un reportage de Bernadette Nyangui.
Dans cet environnement marqué par l'insécurité persistante et une crise économique étouffante, les enseignants du sud du Nord Kivu célèbrent ce 30 avril la journée dédiée à l'enseignement dans un climat de sobriété. Pour un membre de leur syndicat, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Georges Barebera Ominani.
L'enseignant de l'Est passe la journée du 30 avril dans la méditation avec beaucoup de stress. Il est dans une incertitude sociale car nous sommes à la fin du mois d'avril. Jusqu'à présent, le salaire n'est pas encore arrivé.
Au centre des préoccupations, la question salariale. Depuis plusieurs mois, la prime de gratuité, désormais intégrée au salaire de base, suscite incompréhension et frustration.
Il y a même ceux qui accèdent à leur salaire après avoir perdu pour les retraits 20 000, 50 000 francs. C'est pourquoi nous continuons toujours à plaider pour que toutes les parties puissent vraiment se mettre ensemble pour chercher des solutions.
Malgré tout, les enseignants de la région continuent d'exercer leur métier, comptant pour plusieurs écoles aux frais payés par les parents dans cette zone où la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire disparaît peu à peu, même dans les écoles publiques.
À Bounia, les enseignants de l'école primaire Saint-Luc, installés depuis 2019 au site des déplacés de Kingonze, travaillent presque bénévolement depuis plusieurs années. Eux-mêmes déplacés à la suite des conflits armés dans les territoires de Djougou, ils disent poursuivre leur mission pour préserver l'avenir de certains enfants malgré des conditions très précaires. Ils appellent le gouvernement à mécaniser cette école, l'une des rares structures éducatives pour déplacer dans la ville qui accueille près de 800 élèves. Zachary Moyope nous éclaire là-dessus.
Au total, 15 enseignants, tous déplacés de guerre depuis 2017, prestent dans cette école de fortune, construite en planches, située au site de Kigonze dans le quartier Muzipela Bounia. L'établissement accueille des enfants provenant des sites de Kigonze et de l'ISP, malgré une capacité d'accueil limitée. Ces enseignants affirment travailler dans des conditions très difficiles, sans salaire depuis plusieurs années. Ils indiquent avoir reçu de manière irrégulière une prime de 150 000 francs congolais du gouvernement provincial, dont le paiement est suspendu depuis près de 5 ans. Un député national avait pris les relais pendant quelques mois, mais depuis, ils exercent pratiquement sans rémunération. Pour subvenir à leurs besoins, ils demandent une contribution de 6 000 francs congolais aux parents, une somme difficile à réunir pour ces familles déplacées déjà démunies. Ces enseignants dénoncent leur abandon par les gouvernements et plaident pour la mécanisation de cette école afin de garantir l'avenir de plus de 1 000 enfants inscrits chaque année. Emengune Masumbuso, représentant des enseignants, exprime leur ras-le-bol.
Comme on a beaucoup d'affaires, on ne devait pas les chasser, nous sommes en train de souffrir avec eux ici. Le temps ne songe pas à notre école. Nous sommes en train de souffrir vraiment. Nous nous sommes délaissés. Depuis 2019, ça fait beaucoup d'années, on n'a pas encore mécanisé notre école.
Par ailleurs, plusieurs enseignants ayant fui les violences dans les territoires de Djougou restent sans emploi dans les sites des déplacés de Bounia depuis près de 8 ans. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Direction les centres du pays, à Mbujimayi, dans la commune de Kanchi, les écoles primaires conventionnées catholiques Tubondo et Saint-Léonard, situées au quartier Tubondo, sont menacées de disparition. Une ramification des trois têtes des ravins, qui progresse lentement mais sûrement, a déjà englouti une partie des bâtiments de ces complexes scolaires. Face à cette situation, les responsables scolaires lancent un appel pressant aux autorités provinciales et nationales afin d'intervenir rapidement pour préserver ces infrastructures éducatives. Esther Ndalafina.
Construites il y a plusieurs décennies, les écoles primaires Tubondo et Saint-Léonard accueillent chaque année près de 2000 élèves. L'épée Tubondo fonctionne le matin tandis que Saint-Léonard organise ses cours l'après-midi. Mais aujourd'hui, ces deux établissements sont menacés par l'avancée continue des ravins qui grignotent progressivement leurs bâtiments. Nicolas Katamba, directeur adjoint de l'épée Saint-Léonard, décrit un climat d'insécurité permanent pour les élèves.
Quand on a vu ces dangers, on s'est mis à lancer lancer les cris d'alarme ça et là, interpellant les autorités pour qu'elles nous viennent en aide. Jusque-là, la solution tarde à venir. Pendant la récréation, nous avons initié les enseignants comment encadrer ces enfants qui ne tombent pas dans le ravin. Pendant la pluie, en tout cas, ou quand il y a menace de pluie, on libère les enfants.
Face à cette situation, les responsables des deux écoles lancent un appel pressant aux autorités pour une intervention rapide afin d'éviter que ce complexe scolaire ne disparaisse totalement. Il convient de rappeler que l'EP Toubondo et Saint-Léonard sont des institutions publiques conventionnées où l'enseignement est dispensé gratuitement conformément à la politique de la gratuité prônée par le gouvernement. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Et puis, les systèmes éducatifs évoluent pour s'adapter aux nouvelles réalités et aux besoins des apprenants. À Kinshasa, une initiative de l'ASBL Fondation Singani s'inscrit dans cette dynamique avec Jeux Planétaires Universel Play. Ces jeux éducatifs, interactifs et modulables proposent aux enfants dès l'âge scolaire et même au-delà une nouvelle manière d'apprendre en intégrant des disciplines comme les mathématiques, la géographie et autres en stimulant la réflexion et la curiosité. Nancy Atambo nous en dit plus.
Conçu par M. Prosper Singani, ce concept innovant place le jeu au cœur de l'apprentissage. Selon son concepteur, Jeux Planétaires va au-delà du simple divertissement. Il s'inscrit dans une approche moderne de l'éducation où apprendre devient un plaisir.
Le jeu planétaire, c'est un jeu tout à fait éducatif qui fait en sorte que les enfants puissent jouer tout en apprenant des leçons de l'école primaire et puis secondaire. J'ai créé ça dans le but de pouvoir les enfants à les jouer et puissent y apprendre aussi directement.
Du côté des enfants, l'enthousiasme est déjà visible face à cette nouvelle méthode d'apprentissage.
Il y a des leçons, des SEM, des maths, c'est très intéressant. Donc, il y a d'autres choses qu'on n'a pas appris à l'école. À travers ces jeux ici, je l'apprends.
Un projet qui séduit et qui pourrait transformer les habitudes éducatives. L'initiateur appelle au soutien des autorités et des personnes de bonne volonté.
Je lance un appel pathétique aux autorités et aux hommes de bonne volonté, ceux qui peuvent me soutenir dans ces projets pour que nous puissions faire marcher ces jeux.
Jeux planétaires universels Play s'impose comme une innovation éducative prometteuse alliant savoir et plaisir.
La crise alimentaire reste préoccupante en République démocratique du Congo. Une nouvelle évaluation publiée ce mercredi par l'Institut national de la statistique avec l'appui du programme alimentaire mondial PAM révèle qu'une large majorité des ménages fait face à des difficultés pour se nourrir correctement. Jocelyne Moussaoponde pour les détails.
Plus de trois quarts des ménages en RDC vivent aujourd'hui en insécurité alimentaire. C'est ce que révèle l'évaluation conjointe de la sécurité alimentaire et de la malnutrition en situation d'urgence pour l'année 2025. Selon ce rapport, 77,3% des ménages sont touchés, dont une part importante en situation sévère. Au total, près de 27,7 millions de personnes sont confrontées à une faim aiguë dans le pays. En cause, la persistance des conflits, les déplacements des populations, mais aussi la précarité économique. La majorité des ménages dépend d'activités informelles avec des revenus insuffisants pour couvrir les besoins essentiels. Conséquence, l'alimentation se dégrade. Environ 3 ménages sur 10 ont une consommation alimentaire pauvre, avec des carences importantes en nutriments. Pour faire face, certaines familles adoptent des stratégies extrêmes, réduction des repas, vente des biens, voire retrait des enfants de l'école. Autre constat préoccupant, près de 60% des ménages consacrent plus de 3/4 de leurs revenus à l'alimentation, au détriment de la santé et de l'éducation. Face à cette situation, les experts recommandent une réponse urgente combinant aide humanitaire, soutien aux moyens de subsistance et amélioration de l'accès aux services des bases.
En bref, Bruno Lemarquis a été nommé représentant spécial adjoint auprès de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, MANUA, et coordonnateur résident par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, mardi 28 avril. Jusqu'ici en poste en République démocratique du Congo depuis 2022, il occupait également la fonction de coordonnateur humanitaire au sein de la MONUSCO après près de 5 ans d'engagement dans le pays. Durant son mandat en RDC, M. Le Marquis a été en première ligne de la réponse humanitaire dans un contexte marqué par une crise prolongée avec environ 7 millions de déplacés internes, principalement dans l'est du pays où l'activisme des groupes armés nationaux et étrangers continue d'aggraver les besoins humanitaires. En Ituri, avant d'aller plus loin, le trafic a repris ce mercredi sur la route nationale numéro 27 sur les tronçons Jinan-Djougou Centre, situé à plus de 60 km au nord de Bounia. La circulation avait été suspendue mardi à la suite des violences armées qui ont fait 17 morts, parmi lesquels des militaires des FARDC et des miliciens du groupe Convention pour la Révolution Populaire CRP et CODECO. La MONUSCO est intervenue pour sécuriser plus d'une centaine de civils pris sous les tirs. Martial Kizabiamongo.
Les premiers véhicules majoritairement des transports à commun en provenance de Bounia et Magui ont de nouveau circulé ce mercredi vers 11h sur la route nationale numéro 27 sur l'axe Jinan-Djougou centre. La veille, plusieurs véhicules étaient restés bloqués de part et d'autre, notamment au niveau des Fataki, Igabarrière et Jina en raison des affrontements armés. Ces violences ont éclaté après une attaque surprise des éléments de la CRP contre des FARDC à Pimbo. Selon des transporteurs, les patrouilles de combat menées conjointement par les éléments de FARDC et la MONUSCO a permis de rassurer les usagers et faciliter la reprise du trafic. Des notables de la communauté Lori saluent également l'intervention de la MONUSCO qui a permis d'évacuer 191 civils pris sous l'effet de miliciens de la CRP vers Jina pour leur sécurité. Claude Matesso, président de la communauté Lori.
Vraiment saluer. Nous voulons que ça soit régulièrement.
De leur côté, l'armée et la MONUSCO rassurent la population quant à la poursuite des opérations de sécurisation afin de prévenir des nouvelles attaques des éléments de la CRP dans la zone. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, au Liban, nouvelle journée sanglante mercredi 29 avril. Au moins 5 personnes, dont un soldat de l'armée libanaise, ont été tuées dans des frappes israéliennes dans le sud en dépit d'une trêve. L'armée israélienne dit viser des membres des Hezbollah, mais des civils sont tués selon Beyrouth. Les Hezbollah, pour sa part, continuent de revendiquer des attaques contre des soldats israéliens. Plus d'un million de Libanais restent déplacés en raison d'une guerre qui ne dit pas son nom.
L'invité.
La journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo est célébrée chaque année le 30 avril. Une journée qui rend hommage au personnel éducatif, scientifique et met en avant le rôle crucial de l'éducation dans le développement de la nation. À cette occasion, les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi ont évalué les secteurs de l'enseignement en RDC. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Madame Cécile Chiyombo, vous êtes secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle. Comment vous évaluez les secteurs de l'enseignement en RDC à l'occasion justement de cette journée nationale de l'enseignement? Quels sont les compartiments qui ne marchent pas en RDC?
Les compartiments qui ne marchent pas en RDC, nous avons un, les infrastructures. Il était prévu plus de 2 ou 3 000 écoles par le projet de 145 territoires. Mais combien d'écoles le système éducatif a eu à recevoir?
Et à travers la réforme sur la gratuité de l'enseignement, il était prévu, n'est-ce pas, la construction de nouvelles écoles?
Oui, c'est de cela.
Ça n'a pas été fait sur le terrain?
C'est fait, mais c'est une goutte d'eau dans l'eau. Mmh. Ces projets, moi-même, je vous ai dit l'autre fois, j'ai fait les tours, mais je n'ai pas trouvé des écoles nouvellement construites dans le cadre de ces projets à travers les pays. Mmh. Vous pouvez faire autant de distance et vous raconter à peine une école. Et on vous dit, c'est une école construite par le projet de 145 territoire. Vous allez aussi dans les compartiments salaires. Vous comprendrez avec moi qu'à tout bout du champ, il y a contrôle pour les fichiers de la paye. Il faut les nettoyer et c'est chaque année, c'est comme si on était en train de faire du surplace. et nous avons reconnu qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'informations nécessaires. Depuis 2021 à 2025, il n'y a pas eu de données qui peuvent nous aider à évaluer le système. C'est pour dire, si aujourd'hui on arrivait à comprendre que voici les effectifs de la maternelle à l'université. Nous avons autant d'enseignants et nous avons autant de personnel administratif. Et voici ceux qui sont payés et voici ceux qui ne sont pas payés. Ça pourrait nous aider à évaluer convenablement le système, puisqu'il ne faut pas continuer à créer des projets. Cependant, il faut soutenir les anciens projets pour que nous arrivions à évaluer convenablement le système afin d'aider le pays à évoluer.
Merci. Kenny Kale, vous êtes professeur et conseiller au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Quelle évaluation vous également vous faites du secteur de l'enseignement en RDC?
J'ai suivi religieusement la prise de parole de Mme Chiyombo sur le PDL 145 territoires. À date d'aujourd'hui, nous sommes à 1384 écoles qui ont terminé et livré.
Et sur le plan salarial, sur le plan d'amélioration des conditions socio-économiques des enseignants?
Sur ce plan-là, je voudrais rappeler ici que nous avons eu des assises de Bibois en 2024. Et suite à ces assises-là, le salaire des enseignants a été révalorisé deux fois. Premièrement, au trimestre 4 de l'année 2024, de 50 000 francs congolais. Puis secondement, au trimestre 3 2025, de 50 000 francs congolais, soit un total de 100 000 francs congolais. Il faut rappeler, M. Guimaté, que le salaire moyen de l'enseignant était autour de 300 000 francs, et donc l'ajout de 100 000 francs constitue une augmentation importante de l'ordre de plus de 30%.
Professeur Michel Bissa, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, vous êtes secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Comment vous évaluez le secteur de l'enseignement dans ces pays?
Aujourd'hui, s'il faut évaluer notre système éducatif, ne nous limitons pas à regarder la question des salaires, commençons par regarder la qualité de l'enseignement. Je regrette de constater que quand on essaie d'évaluer, on entre dans une approche quantitative pour dire que dans les programmes de 145, on a augmenté autant d'écoles. Non. Les écoles dans ces pays, publiques ou privées, chaque député en a créé dans son village. Il n'y a pas un ministère qui a pondu des arrêtés comme le ministère de l'EPST. On les a vendus en masse. Et donc, notre problème ne se pose pas en termes de quantité, mais c'est plutôt en termes de qualité. Et s'agissant de cette qualité, il faut commencer par questionner la qualité des enseignants. On a quels enseignants? Comment les ISP, l'UPN forment les gens qui devraient enseigner là-bas? Deuxièmement, il faut poser la question du programme. Vous savez que notre programme d'enseignement enseigne plusieurs contre-vérités, mais aussi notre système éducatif doit orienter les enfants vers le secteur technique.
C'est la fin de ce journal préparé pour vous par Jules Mystère Bilan dans Koumar et mis en onde par Jean-Claude Nsalamwana Kengon Swalou. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net.